La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Il y a 20 ans, le moteur de recherche Google voyait le jour dans la Silicon Valley. Cette start-up a depuis totalement bouleversé le web, changé nos vies en profondeur. L'histoire de ce géant de l'Internet débute comme Apple d'ailleurs dans un garage avec des étudiants selon la légende. Son nom est désormais à la tête de l'acronyme GAFA qui désigne avec Apple, Facebook et Amazon les sociétés les plus puissantes du monde. Société qui est passée d'un moteur de recherche confidentiel à une position incontournable, voire hégémonique. En France, par exemple, 91% de nos requêtes sur Internet passent par Google. Comment fonctionne réellement ce moteur de recherche? Qu'est-ce que Google peut savoir de nous? Comment se protéger face à son intrusion dans nos vies? Voici quelques-unes des questions qui seront posées à mes invités dans un instant. Et j'attends vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Du nouveau sur les pesticides tueurs de pollinisateurs, les fameux néonicotinoïdes.
Oui, une étude originale menée à l'intérieur des ruches montre que ces produits abrutissent les abeilles et perturbent l'ensemble de la vie de la colonie. On voit ça dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui abordera les médicaments cancérigènes. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Irène Menahem.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Il y a donc 20 ans naissait le moteur de recherche Google. C'est dans un instant le dossier de l'émission avec mes invités que je salue, Olivier Hercheid et Guillaume Cyr. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Olivier Hercheid, dans quel état d'esprit devrions-nous être aujourd'hui pour fêter les 20 ans de Google en tant que citoyen usagé de ce moteur de recherche?
Un état d'esprit partagé, c'est-à-dire à la fois des utilisateurs satisfait pour l'essentiel des services que nous rend Google au quotidien, parce qu'il faut être clair là-dessus, c'est un moteur de recherche qui nous offre ce que l'on cherche au moment où on le cherche, il est capable de ça, et puis en même temps c'est effectivement aussi une société qui sur plein de sujets est en situation de position dominante, voire d'abus de position dominante, et donc ça pose des questions de citoyenneté, d'accès à l'information, de liberté de la presse, de représentation du monde et de construction d'un imaginaire collectif. Voilà, avec des impacts très concrets sur le plan économique et sur le plan sociétal.
Alors Guillaume Cyr, justement derrière cette interface extrêmement simple du moteur de recherche comme Google, c'est un vrai monde tentaculaire quand même qui se cache. Hein.
Alors oui, c'est un monde tentaculaire et en même temps c'est un monde qui n'est pas si difficile qu'on le pense ou qu'on le dit ou qu'on le pense volontiers à comprendre. Et je pense que l'état d'esprit dans lequel on doit aborder cet outil-là est un état d'esprit d'étonnement d'abord, et de critique, qui n'est pas forcément une critique radicale, mais et de confiance en soi aussi, vis-à-vis d'un outil qui traite l'information, se dire, mais finalement, comment ça fonctionne? Je suis pas si bête que ça, donc je peux comprendre au moins les grands enjeux, les grandes questions que ça pose, les grandes questions que ça me pose, et je ne pourrais l'utiliser d'une manière éclairée qu'en allant un peu avec ma lampe, justement, dans les coulisses qui paraissent obscures, mais qui ne sont pas tant que ça, de cette machine.
Mais vous allez nous y emmener justement dans ces coulisses.
J'espère bien, j'y compte bien.
Parce qu'on espère justement mieux découvrir comment fonctionne Google. Et vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs puisque vous êtes spécialiste justement de cette question. Franceinter.fr pour nous retrouver. Voilà. Et quand les néonicotinoïdes entrent dans une ruche, Axel, les abeilles s'endorment à peu près comme ce qu'on entend.
Oui, hein. C'est un petit peu ça. C'est ce qu'on va voir.
C'est notre sujet aujourd'hui à la une de la science.
Oui, Mathieu, on sait que les colonies de bourdons et d'abeilles exposées à cet insecticide voient leur population décliner depuis un moment, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. Et pour la première fois, une équipe américaine s'est intéressée aux effets de ces néonicotinoïdes à l'intérieur des ruches. Et ils sont nombreux, dérégulation de la température à l'intérieur, mortalité des larves et désorganisation sociale. On en discute avec vous, Aurore Avargues-Weber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue pour le CNRS au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à Toulouse. Alors, l'étude a été publiée vendredi dans le journal Science. J'ai été étonné de découvrir que ces effets dans la ruche n'aient pas été observés plus tôt, compte tenu que le débat sur les néonicotinoïdes n'est vraiment pas récent. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous?
Alors c'est vrai que la première chose qui a été étudiée, c'est vraiment le rôle sur les butineuses, puisque ce sont elles finalement qui sont en contact direct avec les néonicotinoïdes en ayant récolté le nectar et le pollen des fleurs. Et donc c'est vrai qu'il y a des effets tout à fait faciles à retrouver, puisqu'on voit que les abeilles se perdent notamment. Donc ça, c'est vrai que pour l'apiculteur, il est facile de voir le nombre de butineuses qui ne revient pas à la ruche. Donc c'était des choses qui avaient été étudiées. C'est vrai que dans la ruche, c'est tout simplement plus compliqué, puisque lorsqu'on parle d'une ruche d'abeilles, il y a des dizaines de milliers d'individus à l'intérieur de la ruche, dans le noir. Il est très compliqué de suivre un individu donné et donc de pouvoir bien voir ce qui se passe. Et là, c'est vrai que ces chercheurs ont une très bonne technique. Déjà, ils ont travaillé sur le bourdon, qui ont des colonies beaucoup plus petites. Donc là, il y avait entre 50 et 100 individus maximum au sein du nid. Et ensuite, ils ont un système de suivi par une caméra et puis des petites tags sur le dos de chaque individu, ce qui fait qu'ils ont pu vraiment suivre les déplacements, l'activité, les échanges entre les différents bourdons au sein de la ruche et d'avoir du coup quelque chose de vraiment précis qui a permis de mettre en évidence cet effet.
Donc il existe aussi des ruches de bourdons, ce qu'on peut apprendre aussi grâce à vous aujourd'hui.
Oui, voilà, on appelle plutôt vrai que des colonies, que la ruche, bon, classiquement, c'est vraiment ce que l'on fabrique, que l'homme fabrique, mais oui, effectivement.
Alors, vous qui travaillez tous les jours avec des ruches d'abeilles, quels sont les effets qui vous ont le plus étonné quand vous avez lu ces résultats?
Ce qui est vraiment flagrant, c'est le manque de soins aux jeunes, ce qui me semble un impact le plus grand possible, puisque c'est donc bourdons qui ont mangé ce pesticide, ont une activité moindre, mais surtout ils restent en périphérie, ils rentrent moins en contact avec les autres bourdons et ils ne rentrent donc pas en contact avec le couvain qui normalement doit être soigné en permanence. Il est léché, il est nourri, il est retourné, etc. Et donc elles procurent moins de soins aux jeunes. En plus, ils ont du mal à maintenir la température idéale pour le couvain. Et donc ça induit une mortalité importante des larves, qui du coup, bien sûr, à moyen terme, a un impact très important pour la colonie.
Alors, vous l'avez dit, les butineuses se perdent. Là, on voit que la colonie est un petit peu désorganisée. Comment, d'un point de vue physiologique, on peut expliquer ces effets comportementaux quand on a butiné des néonicotinoïdes, alors?
Alors, il faut revenir à ce que c'est qu'un néonicotinoïde. En fait, voilà, c'est une molécule qui agit sur les récepteurs nicotiniques. Et ces récepteurs, en fait, sont présents dans les neurones du cerveau et agissent pour permettre la communication grâce à l'acétylcholine, qui est donc un neurotransmetteur très courant que l'on a nous aussi et qu'ont tous les animaux. Donc, en fait, ces molécules ont été fabriquées pour pouvoir, en fait, bloquer le fonctionnement du cerveau des animaux qui se nourrissaient des plantes. Donc, bien sûr, il agit sur le fonctionnement du cerveau de façon générale. Et là, à faible dose, car les abeilles sont soumises à une faible dose, elles n'entraînent pas une mortalité. Le cerveau ne se bloque pas totalement. Par contre, ça entraîne des difficultés de fonctionnement des communications entre neurones, ce qui est donc un impact très large.
Donc, en fait, c'est leur intelligence sociale, leur intelligence qui est touchée, on peut le dire comme ça?
Exactement. Donc, c'est vrai que ça, on le voit de façon très flagrante par d'autres études, que ces abeilles n'arrivent plus à apprendre. Or, l'abeille a énormément besoin d'apprendre, à la fois pour se repérer dans son environnement, c'est pour ça qu'elles se perdent, parce qu'elles n'arrivent plus à apprendre, à reconnaître leur chemin, les indices de leur environnement, et elles apprennent aussi les caractéristiques des fleurs. Et là aussi, on a vu qu'elles pouvaient du mal à reconnaître une odeur, une couleur, etc. Et donc, elles ont du mal à butiner de façon efficace, à aller retrouver les fleurs qui donnent le plus de nourriture. Donc ça joue sur l'apprentissage, ça joue sur leur activité, puisque la acétylcholine joue dans les réponses motrices, c'est ce qui permet d'activer les muscles. Donc le fait que ça ne marche plus très bien, c'est pour ça qu'on voit dans cette étude qu'elles ont du mal à se déplacer. Et voilà, ça joue certainement aussi sur d'autres processus qui expliquent qu'elles s'occupent moins, voilà, l'occurrence des jeunes, de la thermorégulation ici, oui.
Pour le dire, on pourrait presque dire qu'elles sont un peu shootées. D'ailleurs, en août, une étude est sortie qui montre qu'elles deviennent presque addictes à ces produits. Je voulais vous proposer de la commenter aussi parce que ça avait fait pas mal de bruit. Est-ce qu'on peut relier les deux très rapidement pour terminer?
Oui, donc dans cette étude, ils montrent en fait qu'avec le temps, les bourdons préfèrent aller manger un nectar qui a des néonicotinoïdes dedans. Pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà trouvé avec de la nicotine ou avec de la caféine. Voilà, tout simplement pour dire que les insectes comme nous, ils sont sensibles aux mêmes psychotropes, tout simplement parce que le cerveau fonctionne de façon très similaire.
Et c'est pas toujours une bonne nouvelle en l'occurrence.
Non.
Merci Aurore Avargas-Weber pour votre éclairage toujours passionnant au sujet de ces insectes qui nous intéressent au plus haut point. Merci beaucoup à vous. Publication donc dans Science la semaine dernière. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une découverte animalière faite en Égypte pour la première fois. Des momies de scarabées ont été découvertes en plus de celles de chats et de serpents dans la nécropole de Saqqara. Dans ces 7 tombes, dont les plus vieilles ont 6000 ans, les archéologues ont trouvé entre autres 2 grands scarabées momifiés emballés dans du lin, ainsi qu'un coffret rempli de plus petits scarabées et décoré de 3 coléoptères peints en noir. De nombreux chats momifiés et des statuettes en l'honneur de la déesse chat Bastet ont également été identifiés. La Gironde installe une piste cyclable photoluminescente. C'est une première en France. La ville de Pessac, dans la périphérie de Bordeaux, a inauguré donc hier un marquage lumineux auto-rechargeant. Le jour, la peinture routière capte l'énergie lumineuse du soleil et réémet de la lumière de couleur verte la nuit. Aux Pays-Bas, des tests infructueux avaient déjà été menés pour ce type de marquage. Mais cette fois, le fabricant français promet une peinture bien plus résistante. Et puis pour terminer, la génétique des truffes en plein boom. Une équipe internationale de recherche coordonnée par l'INRA publie et décrypte aujourd'hui le génome de plusieurs truffes. Ce champignon au goût inimitable, truffe blanche, truffe de Bourgogne ou encore truffe du désert. Le but de ce projet qui a duré 10 ans est de mieux comprendre la symbiose qu'opère le champignon avec son arbre, mais aussi de percer les mystères de son goût très difficile à synthétiser. Allez, les 20 ans de Google, c'est dans un instant avec mes invités. Vous avez Kurt Weill à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, les 20 ans de Google, c'était en septembre, et le mode d'emploi cet après-midi pour comprendre justement ce moteur de recherche, dossier de la tête au carré avec mes invités, Olivier Hertscheid et Guillaume Cyr. Vous êtes avec nous donc pour en parler. Tous les deux maîtres de conférences en sciences de l'information et de la communication. Olivier Hertscheid, vous exercez à l'Université de Nantes et vous êtes auteur d'un blog affordance.info qui s'intéresse à l'observation des évolutions du web, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage L'appétit des géants aux éditions C et F. Guillaume Cyr, vous êtes à l'Université Toulouse Capitole et vous avez écrit aux éditions de La Découverte ce livre qui s'intitule Les moteurs de recherche, tout simplement. Et vous allez ensemble répondre aux messages des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr. Et alors, c'est amusant parce que les premières questions qu'on reçoit des auditeurs, c'est sur les alternatives, justement.
Le plan B.
C'est comment, voilà, comment éviter Google? On peut donner déjà des réponses à ceux qui nous écoutent, Olivier Hertscheid.
Oui. Alors,
elles existent, ces alternatives.
Alors, il y en a qui sont en plus françaises. Il y a notamment un moteur de recherche dont on parle pas mal qui s'appelle Quant. Alors, on en parle pas mal pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est positionné sur le créneau de la protection de la vie privée, c'est-à-dire qu'il explique effectivement la différence de Google et d'autres moteurs de recherche, il anonymise très rapidement nos requêtes, il ne conserve pas indéfiniment nos historiques de recherche, et puis ensuite parce que c'est effectivement un moteur de recherche qui en termes de pertinence et de base d'indexation, de nombre de pages indexées, donne des résultats tout à fait corrects.
Ouais. Guillaume Cyr, donc on n'est pas obligé d'utiliser Google pour reprendre ce message de Françoise qui nous écoute.
Alors, malgré tout, dans les années 90 et au début des années 2000, quand on a vu se créer petit à petit une position dominante, on a commencé à dire, et Google répondait toujours, la compétition est à un clic de distance. Et maintenant, on a quand même assez bien documenté un certain nombre d'effets économiques, structurels, qui conduisent ou ont tendance à conduire à la position dominante, voire monopolistique. Oui. Donc finalement, l'alternative existe à la marge aujourd'hui. Ce n'est pas simplement parce que Google serait meilleur que les autres, mais aussi parce que certains mécanismes économiques expliquent très bien cette position dominante, structurelle, qui donc va avec un certain nombre de responsabilités en termes de droits de la concurrence. Et les alternatives, le fait qu'elles restent à la marge, c'est pas forcément parce qu'elles sont moins bonnes, mais aussi parce que justement, il existe ces mécaniques économiques qui ont tendance à en faire des alternatives minimales et à pas les laisser, elles, bénéficier d'une spirale ascendante comme ça et d'une structure de monopole ou de position dominante assez minéralisée dans le cas de Google.
Olivier Hertscheid, d'ailleurs, quand on va sur Google, il n'y a pas de censure de la part du moteur de recherche. C'est-à-dire que si on cherche justement Quant sur Google, il va nous le donner.
Il va nous le donner. Alors, il n'y a pas de censure, effectivement, au sens où on pourrait parler d'une censure politique ou économique dans des régimes non démocratiques.
Ouais.
Par contre, il y a effectivement, et ça a été prouvé, et puis il y a un certain nombre de procès qui sont tenus, notamment à l'échelon européen. Google a aura toujours tendance à favoriser ses propres produits. Donc effectivement, si vous cherchez une vidéo par exemple, si la même vidéo existe sur le site de l'INA et qu'elle existe également sur YouTube, eh ben, il y a de fortes chances pour que Google vous affiche en premier le lien vers le site de YouTube et pas vers celui de l'INA. Ouais. Donc ça, c'est caractéristique effectivement d'un type d'abus de situation dominante qui fait que quand on est un acteur économique et qu'on sait que pour exister à l'échelle du numérique, il faut apparaître en première page et bien classé dans Google, ça lui permet effectivement de tenir les clés, ce que disait Guillaume tout à l'heure, d'un modèle qui est celui d'une régie publicitaire avant tout.
Ouais, Guillaume Cyr.
Alors effectivement, et cette question de position dominante se pose en termes de marché pertinent, c'est-à-dire est-ce que Google répond à votre requête si vous cherchez une vidéo quand il vous renvoie vers YouTube? Est-ce que c'est la même chose, le service YouTube et le service Google, c'est-à-dire le moteur de recherche généraliste? Google va répondre ça en disant il n'y a pas abus de position dominante parce que ce n'est pas un marché dont nous abusons sur un autre marché, c'est le même marché, ce qu'ils appellent la recherche universelle. Et les autres répondent non, ce sont deux marchés différents. Un marché qui est la recherche généraliste, sur lequel Google est en position dominante, et un autre marché qui est celui de la recherche spécialisée, par exemple les cartes interactives, par exemple les comparateurs de prix, sur lesquels du coup Google abuserait de sa position dominante sur le marché A pour tout d'un coup nous concurrencer déloyalement sur notre marché, nous qui ne sommes pas présents sur l'autre marché. Et la question c'est, est-ce qu'il y a deux marchés ou un seul? Parce que en droit de la concurrence, c'est là que ça va se jouer, est-ce qu'il y a abus ou pas de position dominante sur l'un vis-à-vis de l'autre.
Rodolphe nous dit justement sur franceinter.fr, il existe évidemment donc des alternatives qu'on vient de citer, quelques-unes dont une française. Quant, à force de ne parler que de Google, voire néologiser en créant le verbe googliser, on renforce son pouvoir hégémonique, Olivier Hertscheid, et c'est vrai.
Oui, tout à fait. Puis très très vite, en termes linguistiques, Google est devenu effectivement un verbe anglo-saxon. On a vu arriver assez vite le verbe to Google, qui a désigné par métonymie le processus de rechercher quelque chose sur Internet.
Ouais. Et François, ce qui nous demandait justement au sujet de ces sites alternatifs, qu'est-ce qui nous assure qu'ils sont réellement moins intrusifs alors, hein? Comment on peut le vérifier? Quant, par exemple, français, là, comment on sait qu'effectivement ils ne gardent pas nos données? Comment on peut s'en assurer?
Alors, d'une part, il faut voir que ces sites, ils ont intérêt à se positionner en sens inverse de Google, puisque justement, malgré tout, eux réagissent et se présentent. C'est les premiers à se présenter comme des alternatives, oui, en disant, ils gardent vos données, on ne les garde pas, leur algorithme n'est pas transparent, le nôtre l'est. Donc, ils vont avoir tendance comme ça. Il y avait même une légende, alors je ne sais pas à quel point elle est vraie ou fondée, qui disait que Bing était l'acronyme de Bing is not Google.
Oui.
Pour dire vraiment, c'est
Bing, c'est Yahoo, hein, en l'occurrence. Oui. C'est le moteur de recherche.
C'est le moteur de recherche de Microsoft qui fournit aussi les résultats de Yahoo. Oui. Dans ce cas-là. Mais sur l'alternative, si je peux me permettre, je trouve que le débat porte vite parce que c'est la chose la plus évidente sur les alternatives à Google en disant finalement ils sont en position dominante, faut utiliser d'autres moteurs.
Oui.
Alors que, à mon avis, le premier débat qu'on devrait avoir, c'est comment Google fonctionne, quelles questions ça me pose, comment est-ce que je peux avoir la main, plutôt que de croire, si vous voulez, l'alternative, c'est un peu le goût de la solution miracle. Mm-hmm. Tout d'un coup, vous avez un philosophe qui vous dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord, et vous dites, il suffira d'aller voir un autre. Mais si ça se trouve, un, il vous dira la même chose, donc il faut bien vérifier qu'il ne dise pas la même chose. Deux, il sera encore plus malhonnête, justement. Qu'est-ce qui me prouve que l'alternative n'est pas une solution en soi? C'est-à-dire, quelle alternative? Et dans ce cas-là, interrogeons-la. Et puis, pourquoi Google ne me satisfait pas, en dehors du fait qu'il est en position dominante? Comment il fonctionne? Et comment est-ce que je peux interroger les résultats et l'interroger intelligemment, plutôt que de croire que la solution consistera simplement à s'adresser à quelqu'un d'autre?
Allez, on va faire de la pédagogie justement avec vous. Puis on va revenir quand même au début de l'histoire, puisque c'est l'anniversaire de Google, pour comprendre précisément les tout débuts de ce moteur de recherche, avec la voix de son président fondateur, c'est Sergey Brin, avec Larry Page en l'occurrence. Sergey Brin en 2002, justement sur les tout débuts de Google.
Google a démarré comme un projet de recherche à Stanford en 1995. À l'époque, on est allé voir tous les grands moteurs de recherche, Excite, Infoseek, donc on a toujours su que notre idée était viable commercialement. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent le résultat d'une recherche. On évalue d'abord la pertinence des pages web par rapport aux mots que vous recherchez et l'importance des différentes pages sur le web. Par exemple, si vous me cherchez, vous allez trouver mon site personnel à Stanford, parce qu'il y a beaucoup de pages sur le web qui pointent vers mon site en disant « c'est le site de Sergey Brin », ce qui rend l'information crédible. Un peu comme dans la vie, si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, vous allez demander à vos amis qui, eux, vous diront à qui il faut s'adresser pour trouver l'information.
Alors justement, est-ce que depuis les tout débuts, il y a 20 ans déjà, la promesse originelle a été tenue, Olivier Hercheid?
Alors la promesse, tout dépend de quelle promesse on parle. Si la promesse originelle, c'était effectivement de proposer une nouvelle manière d'organiser et de hiérarchiser l'information à l'échelle de cette entité qui émergeait, qu'on appelait le web, oui, la promesse a été tenue. Et effectivement, c'est ce qu'explique Sergey Brin avec son camarade Larry Page. Ils ont inventé un algorithme, un mode de calcul qui repose sur la notion de popularité et qui lui-même vient de travaux un petit peu plus anciens, mm-hmm, d'un monsieur qui s'appelait Garfield, qui a notamment inventé la scientométrie, donc les analyses quantitatives de la science, avec l'idée de savoir comment on fait quand il y a trop d'informations pour essayer de hiérarchiser, de trouver ce qui est incontournable. Et à l'époque, Garfield avait dit, pour les articles scientifiques par exemple, il suffit de regarder la bibliographie, et voir quels articles sont les plus cités. Et ceux-là sont les articles essentiels. Brin et Page ont en gros récupéré cette idée-là et l'ont adapté à ce nouveau corpus qui était le web. Et ils ont dit, il suffit de regarder, schématiquement là aussi, hein, une page, combien de liens pointent vers elle, plus il y a de liens vers une page et plus ça populaire. Et donc, le fait qu'elle soit incontournable augmente. Sauf que, on le voit bien, alors même s'il y a évidemment tout un tas d'autres critères qui entrent en ligne de compte, cette approche-là, qui est une approche par popularité, peut, ouais, très rapidement devenir assez biaisée, puisque la popularité n'est pas la pertinence. Et ce qui est populaire à un moment donné, pour vous ou pour moi, ne renvoie pas.
On pourrait dire que Google est vraiment basé sur ça, sur cette notion de popularité, justement, des connaissances et de l'information.
Ça, c'est la base de l'algorithme, hein, c'est-à-dire, c'est la formule mathématique qui a été publiée dans l'article, ouais, de Brin Planet Page en 1998. Là-dessus, c'est pour ça que personne n'arrive à faire la même chose que Google. Là-dessus, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de critères qui rentrent en ligne de compte, qu'on connaît dans leur ensemble, mais dont on mesure mal la hiérarchie, le poids dans l'algorithme de Google et qui s'applique différemment selon qu'on travaille sur du web, des pages web, sur des images, sur de la vidéo et sur des types de contenus différents.
Guillaume Cyr, qu'est-ce qui a changé en 20 ans fondamentalement depuis les tout débuts de Google alors ?
Ben, finalement, justement, ils ont raffiné leur algorithme, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des critères, donc notamment des critères liés aux signaux sociaux qui n'existaient pas comme ça à la fin des années 90 ou au début des années 2000, les signaux sociaux qui sont publics, puisque sur une page web, quand bien même vous n'auriez pas de compte sur Facebook ou Twitter, vous voyez combien de fois il a été liké, tweeté, enfin, il y a un certain nombre de signaux, le nombre de commentaires, la fréquence de publication. Il a rajouté comme ça des critères, et puis surtout, le grand changement avec 1990, c'est que Google a été créé dans le sein d'une université et cet algorithme-là, le premier, a été publié dans le détail et on le connaît très bien, l'analyse de popularité, de centralité par les liens. Et puis ensuite, et c'est comme le dernier grand article de cette tradition dont mon collègue parlait à l'instant de scientométrie, c'est le dernier grand article publié académiquement, et puis parce qu'après les enjeux économiques sont devenus forts.
On passe carrément dans le business.
On a fait une transition de l'université
de la science
vers
au
le
business.
Secret industriel, l'industrie, avec un code qui est celui aussi de l'opacité, on publie moins ses résultats parce que les enjeux sont très forts. Et même la bibliométrie, depuis, est moins dynamique qu'elle n'a été parce que les enjeux sont très très forts, qui autrefois étaient des enjeux pris en main essentiellement par des institutions publiques.
Et c'est l'arrivée de la publicité justement, Olivier Hirsch, qui a tout changé.
Ce qui a tout bouleversé à l'échelle de Google, mais à l'échelle du web et de notre accès à l'information en général, c'est effectivement l'arrivée de la publicité, ou plus exactement, c'est le fait que le modèle économique de cette société qui existe d'abord comme moteur de recherche va devenir celui d'une régie publicitaire. Et qu'à partir de là, effectivement, les créateurs eux-mêmes vont se retrouver dans une situation tout à fait paradoxale, puisque dans l'article de 98 dont on parlait, à la fin, il y avait un petit appendice, une annexe dans laquelle ils expliquaient qu'aucun moteur de recherche ne pouvait être intéressant s'il était biaisé par la publicité. Et aujourd'hui,
ça n'est que de la publicité.
L'essentiel
quasiment des
revenus de Google, c'est de la pub.
Allez, on en discute dans un instant, la suite de notre programme et de cette tête au carré avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
Ok, Google, quelle est la capitale du Turkistan ?
Reykjavik.
Ok, Google, du Turkistan.
Ah, du Turk, j'ai compris, Turkistan.
Ok, Google, t'as bu ?
Ouais, j'ai bu un verre, ça va. Eh, tu sais quoi ? T'as changé.
Ok, Google, tu te tais.
Et en même temps, t'es mon frère, et les autres, c'est tous des gros enculés.
Ok, Google, tu as vomi.
Tu peux.
Des mérins, nos hologrammes.
Mardi la nuit, c'était Flavien Berger.
La tête au carré sur France Inter.
Qu'est-ce qui se développe? Comment utiliser les capacités de cet algorithme en direction de ce qui est dynamique? On est dans un secteur d'avenir.
Je ne sais pas comment répertorier des données en direct.
Tant pis alors, c'est dommage.
Et les données du web? Le nombre de sites web a progressé de 500% rien que cette année. L'an prochain, la croissance peut être exponentielle. Dans ces conditions, la banque de données est théoriquement infinie. Il faut un peu retoucher l'algorithme, mais on pourrait référencer l'ensemble du web pour y trouver ce qu'on cherche.
Et comment ça pourrait fonctionner?
Avec l'algorithme, ce serait entièrement automatique et informatisé. Les mises à jour seraient presque instantanées chaque fois qu'un nouveau site serait créé.
C'est ça. La voilà l'idée.
Voilà, extrait d'une série qui s'appelle Halt and Catch Fire. C'était la saison 4 qui se déroulait en l'occurrence là en 1994 et qui voyait la bataille livrée par Yahoo qui proposait donc une indexation manuelle du web contre AltaVista dans les années 90 et puis ensuite Google dans les années 2000. Guillaume Cyr, vous voulez nous résumer un petit peu le contexte pour qu'on comprenne bien, pour qu'on a intégré cet extrait dans l'émission?
Oui, puis surtout je veux bien répondre à la question de cette jeune fille qui dit dans la série comment est-ce qu'on pourrait faire ça. C'est-à-dire que ben en fait c'est assez simple à comprendre, puisque si je vous amène 1 million de documents tout d'un coup, comment vous allez faire si ensuite je veux pouvoir créer un moteur de recherche à travers ces documents? Un, vous allez en prendre connaissance. Donc on crée un petit logiciel qui s'appelle le crawler, qui navigue par lien hypertexte et qui recopie le web sur les serveurs de Google, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. En permanence, il recopie le web en naviguant de lien en lien. Vous prenez connaissance des documents. Deux, vous créez comme des piles de documents ou un fichier index, comme à la fin des livres, un livre d'histoire, quelles sont les pages où on parle du général de Gaulle. Vous créez des fichiers index pour savoir avoir des piles de documents par sujet, avec des descripteurs. Trois, ces piles-là, il faut les hiérarchiser. Elles sont toutes potentiellement pertinentes, ces feuilles de papier pour parler du général de Gaulle, par exemple. Ouais. Et il y en a qui, potentiellement, sont plus pertinentes que d'autres. Comment ensuite, du coup, je définis des critères qui me permettent d'établir la liste de hiérarchie? Ce sont les trois grandes étapes du fonctionnement du moteur. Et ces critères-là, justement, au début, donc en 1994, quand la série a lieu, ils ont bien compris les deux premières étapes parce qu'on savait le faire dans les bibliothèques, mais on savait moins bien créer la liste de hiérarchie. Et l'idée de Google qui est arrivée après les autres, après AltaVista, après Excite, après l'idée de Google, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est de rajouter un critère de centralité topographique qui vient considérer que chaque lien hypertexte est un vote attribuant de la pertinence aux documents cités,
la popularité
aux yeux du système,
dont on parlait
la popularité,
tout à l'heure.
Et qui en rajoutant ce critère-là par rapport à tous les aux deux premières étapes, réussit à créer des listes de hiérarchiques qui elles sont jugées plus pertinentes que celles qui existaient.
Olivier Hirschfeld, évidemment ça change tout évidemment, et ça on le doit à des algorithmes quand même, hein.
Oui, bon, on doit beaucoup de choses aux algorithmes qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Ce qui est étonnant dans l'histoire des moteurs de recherche, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une, par définition, quand se produit une innovation de rupture, elle n'est pas du tout anticipée. Quand Google débarque sur le marché à l'époque, tout le monde les regarde un petit peu en rigolant parce que personne n'imagine qu'il soit possible de faire mieux que ce que faisait effectivement à l'époque AltaVista ou d'autres. Et puis très rapidement, effectivement, ces algorithmes, ce principe de pertinence et de popularité vont occuper le devant de la scène. Ils vont aussi répondre à des enjeux techniques, c'est-à-dire qu'il y a une volumétrie de données qui est de plus en plus complexe à traiter, et donc on a besoin toujours de serveurs, d'une infrastructure technique très puissante. Et puis il faut trouver un modèle économique à tout ça. Et le modèle économique, effectivement, il existe avant Google, il y a déjà de la publicité, des bannières de pub, mais ce que Google va affiner, améliorer, inventer, réinventer en tout cas, c'est cette idée de publicité contextuelle. Idée que pour eux, la publicité, c'est le contenu, et que vous ne devez pas être capable finalement de discerner ce qui est de ce qu'ils appellent des résultats organiques, ce que ramène l'algorithme du moteur, de ce qui sont les liens publicitaires et sponsorisés. Et pour eux, la clé du business, c'est ça.
En personnalisant évidemment cette publicité, parce que le but, c'est de connaître notre identité, voilà, et de pouvoir nous proposer ce qui a priori rentre dans nos critères de choix et de nos goûts, hein.
C'est ça. Puis là, on retrouve le côté effectivement pieuvre tentaculaire de Google, puisque même quand on essaie entre guillemets de d'échapper à Google, et ben on retrouve Google à des endroits inattendus. Alors tout le monde sait que YouTube est la propriété de Google, mais Google possède un certain nombre d'autres services. Google est présent sur nos téléphones portables au travers du système d'exploitation Android, avec des fonctionnalités de géolocalisation. Donc ça demande aujourd'hui presque un vrai effort pour arriver à se soustraire, si on a envie de s'y soustraire, à l'environnement Google.
Alors justement, les questions des auditeurs, Guillaume Cyr, c'est Zoro qui nous dit ceci. Les résultats de Google sont bien meilleurs ou complets que ceux de Bing, de Quant par exemple. À quoi cela est-il dû ?
Merci Zoro, je m'attendais pas à remercier Zoro. Et à quoi cela est dû ? Ben justement,
c'est vrai ou pas d'abord, c'est objectif de faire une telle remarque ?
C'est très compliqué de se dire que c'est objectif, mais partons du principe que ça pourrait être vrai en soi. Quelle question ça pose ? C'est-à-dire que on a montré par exemple assez récemment que Google a un historique de données puisqu'il existe depuis 98. Si aujourd'hui, imaginons qu'objectivement, il est possible de dire qu'un moteur est meilleur qu'un autre dans l'absolu, ce qui est relativement invraisemblable, mais partons de ce postulat-là pour voir quel problème ça pose. En fait, si moi je crée un moteur aujourd'hui qui serait objectivement meilleur que Google si Google était créé aujourd'hui, la différence entre moi et Google, c'est que Google n'a pas été créé aujourd'hui. Il a été créé depuis 98. Donc depuis 98, il a des données à propos des comportements des utilisateurs, des sites qui ont bien marché, des sites qui ont moins bien marché, de ceux sur quoi on a cliqué, que moi je n'ai pas. Donc, il est peut-être objectivement meilleur que moi aujourd'hui pour des choses qui ne sont pas directement liées à ce qu'il a produit, c'est-à-dire son algorithme. Simplement à son historique de navigation. Les plus vieux à ce jeu-là gagnent parce qu'ils ont l'expérience, ils ont les données. Et la question, c'est ces données, à quel moment ça devient une distorsion du point de vue de la concurrence ? À quel moment l'historique de données enregistrées permet à Google, qui du coup se retrouve à être un grand défenseur de la vie privée en disant « je vais pas transiter au nom d'une concurrence saine, je vais pas donner les données que j'ai enregistrées de mes chers utilisateurs à d'autres moteurs concurrents, que la concurrence appelle les concurrents crédibles. » Parce que justement, ces données-là, c'est un trésor de guerre qui leur permet, toutes choses étant égales par ailleurs, d'être meilleur que quelqu'un qui créerait un algorithme aujourd'hui qui objectivement serait pourtant meilleur.
Olivier Hercheid, pourquoi justement est-ce qu'il y a ce monopole ? Je crois que la consultation de Google sur les moteurs de recherche, c'est plus de 90% dans le monde entier, donc c'est vraiment des miettes pour le reste et pour la concurrence. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a tous essayé d'ailleurs d'aller sur d'autres moteurs de recherche, et nombreux sont ceux qui sont revenus à Google. Alors, il y a un biais cognitif là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors d'abord, il y a le service qui a rendu, qui effectivement, pour tout un tas d'usages, encore une fois, de la vidéo à la recherche d'informations, et avec un niveau de qualité qui n'existe très peu ailleurs. Et puis ensuite, il y a effectivement un biais cognitif, ou plus exactement une habitude et un confort dont il est très difficile de se départir. Certains des auditeurs qui nous écoutent ont peut-être effectivement testé le moteur Quant, par exemple, parce qu'ils en avaient marre de Google. Et puis on s'aperçoit qu'on finit par revenir sur Google. On n'y revient pas tant parce qu'on est déçu de la qualité des résultats que parce qu'on est bousculé dans nos habitudes, dans nos routines cognitives.
Alors qu'il y a pourtant même des codes couleurs qui sont similaires à Google.
Mais il faut du temps. Quand Google est arrivé, ou même à chaque fois, quels que soient les logiciels et les ordinateurs que vous utilisez, vous voyez qu'à chaque fois que l'interface change, ne serait-ce qu'un minimum, il vous faut un temps d'adaptation qui parfois vous rebute, vous dites je ne vais jamais m'y retrouver, puis au bout d'une semaine, le pli est pris et vous y arrivez. Donc Google joue aussi beaucoup là-dessus, évidemment, comme tous les autres, mais il y a quand même la qualité de la technologie de recherche et de l'infrastructure technique qui joue derrière.
Guillaume Cyr.
Et du coup, il y a deux choses supplémentaires. Donc les données dont je parlais là et ce qu'on appelle en économie les effets de réseau croisé indirect. Alors qu'est-ce que c'est ? Je leur dis très vite. En fait, avec la publicité, comme le disait Olivier tout à l'heure, il répond à votre question. Je peux pas en vouloir à Google, quand je tape hôtel Paris, de me proposer des chambres d'hôtel à Paris, pas chères, dans des hôtels qui peut-être vont me plaire, que ce soit avec des liens dits organiques ou avec des liens sponsorisés publicitaires. Il répond à ma question. Et là, l'économie a montré, dans les années 70, l'école suédoise, et maintenant comprend très bien ça, a montré que dans ce cas-là, parce que je suis client de la publicité, il y a un effet vertueux qui fait que plus les annonceurs sont nombreux à venir sur la plateforme, plus j'ai intérêt à l'utiliser. Plus nous sommes nombreux à l'utiliser, plus les publicitaires sont nombreux à vouloir mettre de la publicité là. Et ça crée un effet vertueux qui structure une position dominante. Alors que dans le cas où la publicité est gênante et où les utilisateurs ou les lecteurs seraient publiphobes, là pour le coup, c'est moins structuré. Mais parce que ça répond à nos questions, la position dominante est assurée. Par cela aussi. Et on l'imagine moins, on le comprend moins parce que c'est technique, économique. Et pourtant, c'est une donnée très importante de cette position-là, assez irrémédiable.
Allez, les moteurs de recherche, on en discute donc. Et celui de Google en particulier dans la tête au carré. Et vos messages que nous recevons sur franceinter.fr.
Tu cueilles des fleurs que tu dans un coin. Tu n'as plus que moi. Et je tremble de froid en t'attendant. Je t'en prie, ne me déçois pas.
C'était Petit Jardin Chinois, souvenir de l'année 80 avec Taxi Girl. Voilà, sur France Inter, dans notre tête au carré, on parle des 20 ans de Google et du mécanisme des moteurs de recherche avec Olivier Ertchid et Guillaume Cyr avec vos questions nombreuses. Sylvain qui nous dit ceci, quand Google me dit qu'il a trouvé 300 000 pages, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas voir les fameuses 300 000 pages. Olivier Ertchid, vous lui répondez ?
Parce que d'abord, les 300 000 pages sont loin d'avoir un intérêt, surtout plus on descend au-delà de la 30e ou de la 40e, et parce qu'ensuite, effectivement, il y a pas mal de doublons et de pages qui sont indexées. Non pas au titre de la pertinence, mais au titre de la masse. Et c'est toujours mieux d'afficher 300 000 résultats que 300 résultats, même quand on est Google.
Ça sert à rien d'aller chercher jusqu'au bout, alors, parce qu'on le fait, parfois on se dit, tiens, on veut peut-être trouver la petite pépite que personne n'a vue.
Il y avait même un moteur de recherche qui existait, dont j'ai oublié le nom, mais qui reprenait les résultats de Google, mais à l'envers, c'est-à-dire qui vous affichait la dernière page de résultats en premier, juste pour vous donner une idée.
Et ils ont fait faillite.
Et ils n'ont pas trouvé de modèle économique consistant.
Zorro, encore lui, nous dit ceci, Google, c'est aussi YouTube et Gmail. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre comme bonne pratique, de ne jamais utiliser Gmail, Guillaume Cyr. Ça a changé beaucoup dans la vie de Google aussi, l'arrivée de Gmail.
Ça a changé parce que simplement...
Sur la publicité en particulier, est-ce que ça a généré comme argent finalement?
Surtout, alors non, pas trop sur la publicité sur Gmail, c'est pas ça qui leur apporte beaucoup d'argent, mais surtout la première chose qu'on fait quand on ouvre un ordinateur ou qu'on soit dans le monde, même si vous êtes en voyage, c'est qu'on regarde ses mails. Et donc tout de suite, il sait que c'est vous. Et donc même si vous êtes au bout du monde, il sait que vous avez tendance plutôt à parler français, à faire des requêtes en français, à avoir ce type de résultat. Il vous retrouve, même si vous êtes sur un ordinateur, dans un lobby d'hôtel qui n'est pas le vôtre, tout de suite, il vous identifie. Gmail, ça permet d'avoir tout de suite de savoir à qui on s'adresse.
Ouais. D'autres questions avec Milav qui nous dit ceci. J'espère que vous avez parlé de Lilo, le moteur de recherche qui collectionne les gouttes d'eau pour les distribuer à des projets écolo-technologiques propres, entre autres, et très performants, Guillaume Cyr.
Alors, en fait, il faudrait que je regarde en détail celui-ci, mais la plupart de ce genre de moteurs utilisent d'autres technologies, par exemple Google. Ouais. Google vous propose, si vous avez un site, monsite.com, c'est mon propre site, tout d'un coup, je peux mettre dessus Google, et vous allez pouvoir venir sur mon site consulter le moteur Google qui va générer des listes de résultats. Et Google, en échange, comme je suis une sorte d'apporteur d'affaires pour les revenus qu'il générera ainsi, me reverse une somme, un pourcentage, je crois que c'est 49% des revenus, ou 32% dans ce cas-là, je sais plus, 49 ou 32, des revenus générés par le moteur. Et ces revenus, je peux les garder pour moi parce que je décide que mon site est lucratif, ou bien je peux le redistribuer à une association écologiste ou quoi que ce soit d'autre. Donc je crois que c'est ça le modèle de ce type de moteur.
Olivier Chéide, une question de Manu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les mécanismes du Google Bombing? Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors le Google Bombing, ça consiste à une fois qu'on a compris comment fonctionnait en gros l'algorithme de Google, avec plus il y a de liens vers une page et plus ce sont des votes pour cette page, à essayer de biaiser cet algorithme pour dire du mal ou pour se moquer d'un certain nombre de pages. Alors, par exemple, le premier qui en avait été victime, c'était George W. Bush, président des États-Unis, où les gens s'étaient mis d'accord pour pointer, créer des liens vers sa biographie officielle sur le site de la Maison Blanche, et le texte de ce lien, c'était Misérable Crétin. Et du coup, au bout d'un certain temps, l'algorithme, il détecte que le meilleur qualificatif, finalement, pour la page de la Maison Blanche avec la bio de George Bush, c'est Misérable Crétin. Donc, quand on tape Misérable Crétin sur Google, on a en premier résultat la bio de George Bush. Ils sont...
Trump l'a pas détrôné encore.
Sarkozy avait été victime aussi avec un truc beaucoup plus vulgaire qui était trop du cul, pardon. Et du coup, Google a fini par devoir intervenir le plus souvent à la main pour défaire ces résultats. Mais c'était intéressant symboliquement, le Google Bombing, parce que ça montrait qu'on pouvait encore être un petit peu plus fort que l'algorithme sans avoir à être hyper organisé ni des hackers de haut niveau. Aujourd'hui, avec Google, comme d'ailleurs avec Facebook, c'est beaucoup plus compliqué de tricher, de ruser, d'être plus malin que l'algorithme parce que c'est toujours plus opaque, plus dense et du coup ça pose encore plus de questions.
Nadège demande qu'est-ce que ça change pour les naïfs qui offrent leurs données à Google que celles-ci soient vendues par Google ou par un hacker qui les aurait volées. Qui veut répondre à cette question ?
Qu'est-ce que ça change ? Alors d'abord, Google ne vend pas littéralement des données. Il propose à des annonceurs d'afficher de la publicité ciblée en fonction de critères que lui possède. Après, effectivement, ça dépend de l'usage qui sera fait de ces données. Si elles sont vendues par Google, ou en tout cas si Google y donne accès, ce sera uniquement a priori pour permettre à des annonceurs de nous afficher de la pub. Si c'est un hacker qui récupère ces données, bah, il peut s'en servir pour créer des faux, faire de l'usurpation d'identité, etc., etc.
Alors, comment se protéger justement du géant Google ? Eh bien, la possibilité, par exemple, avec nos données, le règlement général sur la protection des données. On écoute cet extrait des LCI. C'était en mai dernier. Mai 2018.
Le RGPD, Règlement général pour la protection des données personnelles, c'est avant tout un renforcement de vos droits et quelques nouveautés. Il y a d'abord les conditions d'utilisation. Les entreprises doivent vous exposer de manière claire et simple à quoi serviront vos données personnelles et combien de temps elles seront conservées. Elles doivent ensuite obtenir votre consentement. Le RGPD prévoit aussi de renforcer le droit à l'oubli. En cas d'atteinte à la vie privée, vous pourrez obtenir le retrait ou l'effacement total de vos données personnelles. Sites de vente en ligne, banques ou encore réseaux sociaux, toutes les entreprises ou organisations européennes devront s'y plier, sous peine de lourdes amendes, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial.
Alors, Olivier Tchit, qu'est-ce que ça a changé finalement, la mise en place de ce règlement par rapport à nos données ? Est-ce que c'est réellement un bouclier pour nous protéger ou pas ?
Alors, pour essayer de faire court, c'est un outil qui est très intéressant et qui offre un certain nombre de garanties, mais dans la mesure où il crée un cercle vertueux, c'est-à-dire que ces grandes sociétés ont été amenés davantage sous la pression de leurs utilisateurs en termes d'image à faire évoluer les conditions d'accès aux données. Et effectivement, il manquait un étage législatif qui était le RGPD au niveau européen. Donc ça a installé un climat qui est supposé être un climat de confiance et qui, pour l'utilisateur, effectivement, va offrir des garanties juridiques sur le fait de pouvoir non seulement récupérer ces données, mais également les réimplanter sur un autre service. Mais encore une fois, parce que des observateurs se sont étonnés parfois que Facebook ou que Google se réjouissent de la mise en place du RGPD, en disant
c'est
les gens qui ont l'habitude de capter nos données,
oui,
pourquoi ils
louche.
Sont contents quand on leur demande d'arrêter de le faire.
Ouais.
Parce qu'en fait, derrière, ces plateformes-là tiennent principalement par l'adhésion de leur clientèle, de leur public captif, et que si elles ont un trop grand déficit d'image en termes de captation des données, eh ben elles perdent des parts de marché.
Guillaume Cyr.
Alors, en dehors du déficit d'image, même très techniquement, en fait, la plupart des sites internet du monde, et donc en France par exemple, utilisent Google Analytics pour savoir d'où proviennent les visiteurs, combien de visiteurs ils ont eu, qui est un outil gratuit qui fonctionne très bien. Et donc Google, en proposant gratuitement ce service sans publicité, s'est assuré là aussi de parts de marché considérables.
Mmh.
Et sur Google Analytics, maintenant, Google, tous ses comptes authentifiés, donc tous ceux qui ont un compte Gmail, etc., moi, il me donnera plus les données concernant ces utilisateurs en me disant « je les protège ». Donc tout d'un coup, ça devient des données « not provided » sur mon Google Analytics. Et le seul moyen que j'ai d'ouvrir à nouveau ces données et d'y avoir accès est de devenir un partenaire de Google économique, c'est-à-dire de venir faire de la publicité pour mon site sur son service. Donc la RGPD protège Google, qui du coup dit de deux façons, cette première façon dont je viens de vous expliquer et celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, sur les données vis-à-vis des concurrents crédibles, nous n'allons pas donner les données relatives à nos utilisateurs parce que nous les protégeons, et ça nous arrange bien parce que ça consolide notre position dominante.
Bien sûr,
la RGPD fait beaucoup le jeu de ces positions structurellement dominantes.
Alors, puisqu'il nous reste 2 minutes, on va se distribuer la parole, 1 minute chacun, peut-être pour dire à nos auditeurs, en conclusion, ce qui serait la bonne pratique, justement, pour travailler, vivre aussi avec ce moteur de recherche, sans forcément le condamner, parce qu'il enregistre beaucoup de services. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Olivier Archeïde, finalement ?
Je crois qu'il faut retenir l'idée qu'un dispositif technique ou un dispositif socio-technique comme un moteur de recherche n'est jamais un outil neutre, et que derrière, même s'il s'agit d'un algorithme mathématique, cet algorithme, au regard de la masse énorme de données qu'il traite, il met en place un certain nombre de cadres de représentation et il finit par transmettre qui ressemble à des valeurs, voilà, des valeurs morales, politiques, ainsi de suite. Donc il faut toujours se demander quel est l'intérêt évidemment de la firme, mais quelles sont les valeurs qui sont transmises et quels sont les biais aussi qui peuvent y être associés parfois sur des requêtes qui touchent à des sujets de société. Là, il y avait récemment les commémorations de la Première Guerre mondiale. On a aussi beaucoup parlé de Pétain, de la collaboration. On n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais le traitement, par exemple, de la requête nazie sur Google en fonction des pays, des banques culturelles, des données indexées, donne des résultats radicalement et diamétralement opposés. Et ça construit un cadre de représentation culturelle collectif qui, derrière, construit des imaginaires, construit des citoyens. Il faut toujours se demander d'où vient ce cadre et quels sont les intérêts de ceux qui nous le fournissent.
Ouais, surtout que nous le fabriquons aussi.
Et nous le co-fabriquons avec eux, bien sûr, par notre usage.
Guillaume Cyr, alors, pour conclure.
Alors, moi, en fait, personnellement, je pense que l'alternative ou le bouclier, ce ne sont pas des solutions. La solution, c'est l'intelligence et l'étonnement. C'est-à-dire de se dire, finalement, derrière cette interface simple, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est trois choses. Ce sont des critères, des pondérations de ces critères les uns par rapport aux autres et des constantes. Il y a une constante alpha dans l'algorithme Google. En fonction de là où je la situe, j'ai pas les mêmes résultats. Est-ce que je peux avoir la main dessus ou non? Comment je peux prendre la main ou pas? Qu'est-ce qui se passe quand j'interroge l'algorithme? Être conscient de ces biais dont Olivier vient parler, de ces biais possibles. Et une fois que je suis conscient de ces biais possibles, l'idée, c'est j'ai plus peur de me servir de Google. C'est-à-dire, il faut pas se dire, je vais pas m'en servir. Faut se dire, je suis bien conscient qu'il y a des êtres humains derrière, et je suis moi-même quelqu'un d'intelligent et de doué de raison. Je n'accepte pas un monde où on aurait renversé l'adage socratique. C'est plus, je sais que je ne sais rien, mais tout d'un coup, c'est, je sais tout, à condition de pas me demander comment c'est possible. Ben, si, justement. Il faut se demander comment c'est possible, et dans ce cas-là, on saura tout. Mais en même temps, avec une vision critique de ça, avec notre propre intelligence, et on nourrira notre propre étonnement en d'abord en le déclenchant. Et il faut déclencher cet étonnement devant l'outil plutôt que tout de suite vouloir aller ailleurs ou se protéger avec un bouclier quel qu'il soit.
Merci beaucoup à tous les deux. J'aurais aimé vous demander ce qu'on peut imaginer de Google dans 20 ans, mais on n'a plus le temps. En attendant, on peut lire les moteurs de recherche que vous signez Guillaume Cyr, c'est aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Et puis Olivier Hercheil, L'appétit des géants, le pouvoir des algorithmes, l'ambition des plateformes, c'est aux éditions C et F. Merci beaucoup à tous les deux et merci aux auditeurs.
Merci à vous.
Vos questions, à bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Le docteur et ses bretelles. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et votre polémique du jour concerne les médicaments cancérigènes. Quoi, ça existe encore?
Ah ouais Mathieu, ça peut paraître surprenant comme ça au premier abord, mais de nombreux médicaments connus comme cancérigènes de façon certaine sont commercialisés et largement utilisés.
Comment c'est possible ça?
Déjà, il faut se rappeler qu'on consomme régulièrement des aliments cancérigènes, comme ceux qui sont grillés ou fumés par exemple. C'est une prise de risque assumée, faible, que chacun met en balance avec son plaisir gustatif. Eh bien, pour les médicaments, ça paraît plus surprenant, mais c'est le même principe, la mise en balance d'un risque et d'un bénéfice. Alors, l'affaire des hormones de la ménopause est emblématique. Elles ont été prescrites et quasiment imposées aux femmes pendant des années, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elles augmentent légèrement le risque de cancer du sein. Mais une femme très handicapée par les symptômes de sa ménopause et bien informée peut décider de prendre quand même des hormones. C'est toujours la mise en balance du bénéfice et du risque et une décision qui doit bien sûr impliquer la personne concernée.
Pourquoi vous avez choisi ce sujet aujourd'hui, Dominique ?
Eh bien, parce qu'une petite bombe est tombée la semaine dernière. Un diurétique très utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, qui s'appelle l'hydrochlorothiazide.
Bravo.
Quadruple le risque de certains cancers de la peau. Alors, attention, il ne s'agit pas de cas de mélanome. Ce sont des cancers qui restent très localisés, des sortes de petites verrues, et il suffit de les enlever pour un préjudice qui serait généralement à une cicatrice, malheureusement souvent sur le visage. Or, l'hydrochlorothiazide est largement prescrit, des millions de Français le prennent au quotidien. Il est commercialisé seul sous la marque Ezidrex, mais il est surtout présent en association avec d'autres médicaments pour la tension sous différents noms de marque. Il suffit pour ça de regarder la composition sur la boîte.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne le retire pas du marché alors tout simplement?
Eh ben, c'est toujours notre balance bénéfice-risque. C'est l'un des plus anciens, des plus efficaces, des plus étudiés des traitements de l'hypertension artérielle. C'est aussi le moins cher, c'est incroyable, 1 à 2 euros par mois. Son retrait aurait très certainement des conséquences négatives sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux liés à l'hypertension. Donc, les autorités sanitaires sont très ennuyées face à cette découverte. Il n'existe pas de possibilité de substitution avec un autre diurétique qui serait suffisamment étudié pour être certain qu'il n'expose pas au même risque. Un retrait pourrait donc avoir des conséquences bien plus graves finalement que son maintien sur le marché avec une augmentation des AVC. Bah en attendant, il va quand même falloir expliquer tout ça à chaque patient, oui. Et certains, effrayés c'est ça, ouais. Par le mot cancer, voudront sans doute changer de médicament quand même. Hein. Alors, espérons que nous pourrons disposer à terme d'une alternative fiable, car l'enjeu est de taille. L'hypertension artérielle, c'est vraiment un fléau majeur, et en attendant, bah, il est nécessaire d'inspecter régulièrement la peau, surtout au visage, des gens qui ont pris ou qui prennent ce médicament, et c'est justement mon cas.
Il faut prévenir le patient dans ces cas-là, du risque.
On ne peut pas lui cacher, c'est impossible. Ouais. On ne peut pas refaire l'affaire du Levothyrox, il faut vraiment que les gens soient parfaitement informés.
Merci Dominique Dupagne, c'est une chronique bien sûr à réécouter sur notre site franceinter.fr et on vous retrouve mardi.
À mardi.
Merci à Grégory Wallon qui était aujourd'hui à la technique. Thierry Dupin signait la programmation musicale de l'émission.